Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Delphine Darmon et vous écoutez Demain n'attend pas. Dans ce podcast, nous discuterons à bâton rompu et à cœur ouvert avec des hommes et des femmes qui travaillent à rendre le monde un peu meilleur. Ils sont entrepreneurs engagés, investisseurs à impact, fondateurs d'ONG, artistes activistes. Ils repensent les industries traditionnelles comme la mode ou l'agroalimentaire. Ils agissent dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de l'environnement. Ensemble, nous échangerons sur leur parcours, les raisons de leur engagement et sur leurs projets. Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, c'est le podcaston. Vous connaissez ? Le principe est simple, c'est un peu comme le téléthon, on vient vous informer, vous mobiliser, vous solliciter. Mais cette fois, c'est les podcasteurs qui vous parlent. On est plus de 450 podcasteurs francophones et pendant une semaine, chacun d'entre nous choisit une association qui nous tient particulièrement à cœur et on vous la fait découvrir. Cette année, c'est la deuxième édition, c'est toute la semaine et bien sûr, Demain n'attend pas et partenaire. Alors, cette année, j'ai choisi de mettre en lumière Première Urgence Internationale, une association humanitaire qui intervient sur zone de guerre ou d'effondrement économique. Avec ses 3000 collaborateurs, elle répond à tous les besoins de la population, de la santé à l'alimentation, en passant par l'eau, l'assainissement et la reconstruction. Les humanitaires travaillent dans des conditions souvent difficiles pour ramener la vie à des femmes et à des hommes qui sont menacés dans leur existence même. Avec un budget de 125 millions, Première Urgence est une association d'envergure de la même taille qu'un Médecin du Monde. Elle est moins connue parce que ses financements reposent essentiellement sur des bailleurs internationaux. Pourtant, leur travail est remarquable et ils opèrent en ce moment plus de 200 projets dans 25 pays et viennent en appui à 6 millions de personnes. Il est temps de les faire connaître et d'appeler à les soutenir. Alors dans cet épisode, je vais échanger avec son fondateur Thierry Morisset qui nous raconte comment lui, qui était publicitaire, s'est retrouvé dans un camion à amener des denrées vitales à Sarajevo du temps de la guerre en Bosnie, et comment très rapidement cette première intervention avec des amis est devenue une ONG majeure, capable d'intervenir sur toutes les zones de guerre. J'échange également avec Olivier Routeau, le directeur des opérations de l'association, qui complète et qui nous raconte à quoi ressemble une vie de travailleur humanitaire de terrain et à quoi ressemble leur carrière. C'est passionnant et je les remercie tous les deux de nous faire découvrir l'arrière du décor et toute l'histoire et le fonctionnement d'une ONG humanitaire. Merci également de s'être prêté avec grâce à toutes mes questions, même les plus dérangeantes. Une ONG peut-elle intervenir partout ? Que faire quand ça rentre en conflit avec la politique internationale de la France ? Quelles sont les questions éthiques de l'humanitaire ? Et comment on rentre chez soi le soir, après avoir passé des journées sur zone de guerre ? C'est un épisode passionnant et malheureusement d'une actualité criante. Alors bien sûr, si vous voulez soutenir Première Urgence Internationale dans le cadre du podcaston, allez contribuer au fonds d'urgence mis en place par l'association pour être en capacité à se mobiliser en toute urgence, n'importe où, n'importe quand. Je vous mettrai tous les liens dans le texte de l'épisode. Et pour finir cette longue introduction, je ne peux que vous encourager à aller écouter les podcasts de mes consoeurs et de mes confrères podcasteurs et à découvrir les associations extraordinaires mises en avant tout au long de cette semaine. 450 associations tout de même, hein. J'espère que vous avez un peu de temps. Je vous souhaite une très bonne écoute à tous. Bonjour Thierry, bonjour Olivier. C'est un bonheur aujourd'hui d'avoir non pas un, mais deux invités, ce qui est quand même très rare sur Demain n'attend pas, deux figures de l'engagement humanitaire en France. Thierry Morisset, tu as créé Première Urgence, qui n'était pas encore Première Urgence Internationale, on va y revenir. Tu as créé Première Urgence il y a 30 ans, super jeune, trentaine d'années. Et tu as vu l'action humanitaire française évoluer, se questionner, se structurer. Et puis, tu as fait grandir Première Urgence, qui est devenue Première Urgence Internationale, une ONG de premier plan, qui vient aux victimes de conflits, de catastrophes naturelles ou d'effondrements économiques, et donc assez souvent en fait en zone de guerre. Et vous intervenez à la fois pour des besoins d'urgence et des besoins de développement, et on va y revenir assez largement ensemble. Olivier Routeau, tu as mené une vie professionnelle d'opérateur de terrain, d'ONG, et puis tu as rejoint Première Urgence Internationale il y a une dizaine d'années, en charge des missions sur l'Afrique, et aujourd'hui, tu es directeur des opérations de l'ONG. Quelle chance de vous avoir tous les deux, merci beaucoup. Thierry, j'aimerais commencer par toi et que tu nous racontes comment t'as grandi d'abord, dans quel environnement, histoire de bien comprendre ce qui derrière va t'amener à créer cette ONG.
Alors, pour démarrer cette petite histoire, Première Urgence est née en juin 1992. Et c'est un hasard en fait que cette association soit née, parce qu'en fait à l'origine un ami, Rodolphe, marié à une bosniaque de Sarajevo, était en contact avec sa belle famille lorsque le conflit en Bosnie a éclaté et lorsque le siège de Sarajevo s'est mis en place, c'est-à-dire en avril 92. Rodolphe souhaitait faire quelque chose pour aider les populations civiles assiégées dans la ville de Sarajevo. Et il a organisé pour ça une soirée chez lui où il a rassemblé ses amis et sa famille française. Leur a parlé de ce qu'il savait de la situation des civils assiégés et leur a demandé de lui donner, de lui confier des produits de première nécessité qu'il envisageait donc de transporter dans une camionnette qu'il aurait louée pour aller à Sarajevo et remettre le contenu de sa collecte à la Croix-Rouge de Sarajevo, parce que dans sa belle famille, il y avait des volontaires de la Croix-Rouge qui pouvaient se charger de distribuer l'aide qu'il aurait collectée. Donc cette soirée s'est déroulée. Les amis sont venus nombreux, mais ils ne sont pas allés acheter au détail des produits de première nécessité. Ils ont plutôt donné à Rodolphe des chèques sans ordre. Rodolphe s'est retrouvé comme ça avec pas mal de chèques et il a su réunir 50 000 francs. En 92,
un vrai magot.
Je pense qu'aujourd'hui ça pourrait faire 50 000 euros. Ouais. Donc, il avait des amis très généreux. Et donc, Rodolphe s'est trouvé un peu embarrassé parce que il ne voulait pas encaisser ses chèques sur son compte personnel. Voilà. Et pour cela, il a demandé à un ami commun comment faire pour pouvoir encaisser ses chèques sans qu'il tombe sur mon compte à moi. Donc, cet ami commun m'a contacté en me disant « Écoute, il faut être trois pour créer une association. Est-ce que tu veux pas être le troisième pour t'occuper plus exactement de l'administration, c'est-à-dire rédiger des statuts, les enregistrer, trouver un nom à cette association, lui trouver un logo par la même occasion, et de là ouvrir un compte en banque au nom de cette structure où Rodolphe pourrait déposer ses chèques. » Nous avions pour objectif d'acheminer cette aide avec la camionnette que Rodolphe se proposait de louer. Et fin août, dissolution de l'association, parce que nous avions tous des métiers et qu'il n'était pas possible.
Pour venir à la vraie vie. Tu avais donné ton coup de pouce.
On avait des vrais métiers à l'époque et on ne s'était pas imaginé aller au-delà du mois d'août 92. Les choses ont changé dans notre esprit parce que, tout du moins dans le mien et originellement, parce que j'ai trouvé un peu dommage d'aller dépenser 50 000 euros dans une enseigne de supermarché. Hein. Et donc, comme j'étais publicitaire, j'avais une clientèle de grandes marques d'agroalimentaire ou de produits d'hygiène. Et donc, je les ai sollicités, je les ai contactés pour leur demander s'ils ne pouvaient pas nous donner des produits en nature.
Tu avais été sur place, Thierry ? Tu avais participé à la livraison ou
Ça, c'était avant la livraison. Donc on a rassemblé en fait, et avec notre réseau d'amis, d'accord, on a contacté tout un tas d'entreprises.
Vous avez
obtenir...
été au-delà des fonds, étendu la collecte de fonds à une collecte de biens.
À une collecte de biens, donc des produits, donc ce qu'on appelle des produits en nature. Et en fait on a rassemblé par cela l'équivalent de 3 Smirmorque. Et l'argent qui avait été collecté par Rodolphe a servi justement à financer la location de ces camions. Et tout le voyage jusqu'à Sarajevo. Donc en fait, la camionnette n'est jamais partie, mais 3 Smirmorque sont partis. Et alors le trajet a été très compliqué, mais cette aide a pu rentrer dans Sarajevo grâce à l'appui des casques bleus à l'époque. Et je pense que c'était peut-être même un des premiers convois d'ONG privés qui rentrait dans la ville en juillet, donc 92. Et les bénévoles de la Croix-Rouge de Sarajevo nous ont donc bien et bien aidés à distribuer ces produits et nous ont aussi déjà appris comment distribuer.
Donc une fois que vous, parce qu'ils auraient pu prendre vos sous, prendre vos matières premières et puis vous laisser repartir gentiment à Paris et s'occuper de la suite. Mais peut-être qu'ils ont vu le potentiel dans votre petit groupe de copains qui finalement avait été fort utile. Ils vous ont embarqué dans la distribution.
Oui, ils nous ont embarqué parce que Rodolphe était donc, ça c'était quelque part un peu sa belle famille qui était dans les équipes de la Croix-Rouge. Donc il était parfaitement intégré aux distributions. Et quand Rodolphe est rentré à Paris, il a réuni de nouveau ses amis pour leur parler de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait vécu, des besoins qu'il avait constatés. Et il nous a proposé de recommencer. On a accepté. Et de fil en aiguille, l'association qui devait être ponctuelle est devenue pérenne.
Est-ce qu'on peut revenir deux minutes sur ces premières impressions de mission terrain ? Comment, quels ont été tes ressentis, tes enseignements ? Comment t'es reparti de ces premières visites ?
Déjà, la spécificité du conflit en Bosnie, c'est que c'est pas loin. Donc en 2 heures, en avion, on y est. Donc on peut partir de Paris l'été, il fait beau, toute la vie est belle, et 2 heures après on se retrouve sous le feu, tout simplement, hein. Et j'avoue que je n'avais aucune expérience de ce type de contexte, et là j'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris une claque de voir le dénuement, la dangerosité de tout type de déplacement dans la ville. La pénurie d'eau, de nourriture, de chauffage, d'électricité, enfin, ça je ne l'avais jamais connu auparavant. Donc oui, ça m'a impressionné et j'en suis revenu un peu bouleversé. Et c'est pour ça que j'ai adhéré vraiment au projet, parce que j'ai senti que même si au début de l'activité de première urgence, le volume d'aide était très faible au regard des besoins sur place, toutes les distributions étaient marquées d'un grand enthousiasme des populations qui en bénéficiaient. Donc pour moi, il est devenu assez évident qu'il fallait continuer d'une part, mais augmenter notre volume d'aide.
Comment tu passes de cette première mission qui se renouvelle à j'étais en ma zone d'intervention et géographique et progressivement aussi dans les domaines de compétences, parce que vous êtes arrivé avec des produits de première nécessité, vous allez vous développer assez rapidement sur le soin et sur d'autres choses. C'est quoi les étapes ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de pas en rester là ? Puis la guerre s'est arrêtée, vous auriez pu aussi poser en même temps qu'ils posaient les armes, arrêter l'association, et j'imagine que ça a été le cas de pas mal d'autres associations qui s'étaient créées à cette époque.
On n'a pas attendu la fin du conflit en Bosnie pour agir dans d'autres pays. Et ça s'est fait pour une raison simple, c'est que d'autres personnes ont rejoint l'association et ont apporté d'autres compétences et d'autres envies d'intervention. Sachant que le fil rouge de l'association à ses débuts, c'était le conflit armé. Voilà, c'était ce que l'on voulait cibler en priorité. Et dès 1994, nous sommes allés en Géorgie, en Azerbaïdjan. En 1996, nous sommes allés au Liban et au Niger. Enfin voilà, l'association s'est géographiquement implantée au fil du temps par cette envie d'intervenir sur des zones de conflit, et puis parce que, comme je vous le disais, ceux qui nous ont rejoints ont exprimé d'autres envies basées sur l'aide que nous pensions pouvoir apporter dans d'autres pays, compte tenu des compétences que nous avons su acquérir au fil des mois et au fil des années, et notamment dans toute l'activité de l'origine de l'association, c'est-à-dire le conflit armé en Bosnie.
Première urgence va passer progressivement du coup d'un groupe d'amis sur lequel se greffe un peu de compétences à gauche à droite à une organisation très grande aujourd'hui et donc structurée. Est-ce qu'il y a quelques étapes sur lesquelles tu voudrais revenir ?
Des étapes clés, la principale étape clé c'est 2011 avec le rapprochement, donc une fusion plus exactement, avec une ONG qui était plus ancienne que Première Urgence, qui s'appelle Aide Médicale Internationale, et qui s'était créée en 1979 pour intervenir en Afghanistan. AMI était en fait une scission d'MSF, comme il y en a eu beaucoup d'autres. Et les compétences de l'AMI étaient, comme son nom l'indique, des compétences médicales, ce que Première Urgence n'avait pas. Nous maîtrisions tout ce qui relève de la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'assainissement, de la construction ou de la réhabilitation d'abris, d'hôpitaux, de dispensaires. Ça, c'était bien maîtrisé par Première Urgence. Mais la compétence médicale, on l'avait pas. Dont ce projet de rapprochement, de fusion, faisait sens parce que nous considérons que toute population victime de conflits ou de catastrophes naturelles a besoin d'une aide de base qui est la santé, l'eau, l'assainissement, l'alimentation et les abris. Voilà. Et donc le fait de se rapprocher avec l'AMI, c'était nous mettre en capacité de répondre aux besoins premiers d'une population qui nécessitait une aide de première urgence.
Oui, bien sûr. Et puis c'est la capacité du coup à mobiliser du corps médical, des médecins, des infirmiers, à les envoyer sur place, ce qui faisait peut-être défaut aux...
Ben, nous n'avions pas cette expertise en fait. Et une autre vision qui nous a permis également de nous réunir, c'est le fait que l'AMI était dans des pays où première urgence n'était pas, et inversement. Donc il y avait une complémentarité géographique et une complémentarité de compétences métiers.
Il y a eu ce rapprochement extrêmement important avec Aide Médicale Internationale, et puis il y a eu une croissance très rapide de l'association. Thierry, est-ce que tu peux nous parler de ces phases de structuration ?
Peut-être pour revenir au début de l'association, dès sa première année, on a pu rassembler 4 500 000 francs, ce qui était une somme prodigieuse. Et la seconde année, c'était plus 4 500 000, c'était 35 millions. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu quand même se soucier de la structuration de l'association. Parce
effectivement,
que,
il fallait plus qu'un compte en banque. Là.
Oui, il fallait plus qu'un compte en banque, et puis il fallait plus aussi que des activités soient gérées uniquement par des bénévoles. Ça a nécessité une structuration, et pour structurer l'association, mais il a fallu embaucher, salarier des gens pour qu'ils puissent s'inscrire dans la durée également, parce que le bénévolat est toujours ponctuel. Le bénévole vient, c'est bien. S'il ne vient pas, c'est pareil. Voilà, on n'avait pas de... Et ça, c'était très difficile de continuer à fonctionner sous cette forme-là, parce que l'association avait énormément grossi et que il fallait, par nécessité, la structurer. Donc, c'est ce que nous avons fait.
Et vous aviez tous les trois la même vision ? Tu vois, les mêmes envies de...
Alors, pas tout à fait les trois, parce que parmi les cofondateurs, les deux, Christophe, que je n'ai pas nommé tout à l'heure, et Rodolphe, ont quitté l'association au bout de 6 mois.
D'accord.
Dès ses débuts. Pourquoi ? Parce que leur métier ne leur permettait pas de continuer à s'investir plus avant dans le fonctionnement de l'association. Parmi les cofondateurs, je suis resté parce que j'ai fait un choix différent du leur.
Merci beaucoup Thierry, merci. Olivier, t'es tombé dans l'associatif très vite, tu veux nous en parler ?
Alors, effectivement, c'est pas du tout un malentendu. Moi, je suis parti d'une génération qui, effectivement, a choisi de se former dès le départ pour faire ce métier-là. Alors, sans revenir sur la genèse des réflexions à l'époque, mais je savais que je voulais travailler dans les relations internationales, ou en tout cas à l'international. Ça, c'est peut-être la constante qui m'a accompagné durant mes études, que ce soit du journalisme, de la coopération. Enfin, il y avait pas mal d'idées qui tournaient. Et puis, c'est dans le cadre de voyage à l'étranger que j'ai pu rencontrer des gens qui faisaient ce métier-là. C'est vrai qu'à l'époque, à part l'image effectivement de Médecins Sans Frontières ou de ce type d'assaut, j'étais pas forcément quelqu'un qui était déjà engagé dans des assauts humanitaires en particulier, et c'est plutôt au contact de d'autres types de travailleurs, parce que pour moi l'image des travailleurs humanitaires à l'époque, c'était quand même des gens qui étaient soit médecins, soit qui avaient un métier, une compétence métier finalement à mettre en avant. Moi j'avais fait de la science politique, j'étais très généraliste, donc je voyais pas forcément mon avenir professionnel dans l'humanitaire en particulier, mais plus peut-être dans des instances de coopération ou ce genre de choses. Et c'est au contact du terrain en fait de voir il y avait des gens qui faisaient ce métier-là sur le terrain, que j'ai décidé de m'y former. Donc j'avais fait une école qui s'appelle Bioforce, qui forme au métier de l'humanitaire. Et puis très vite, en fait, mon premier travail, ça a été de partir en République centrafricaine, donc dans le nord de la République centrafricaine, pour commencer à travailler directement.
Oui, là j'ai vu que tu les as enchaînés, hein, Guinée, Ukraine, Balkans, Nigeria, Libye, Haïti, Bangladesh, Burundi, Niger, et j'en passe.
Alors ça c'est bien plus tard, effectivement, j'ai commencé par rester très longtemps en République centrafricaine, quasiment 2 ans et demi, et puis faire effectivement d'autres expériences d'expatriation en tant que travailleur humanitaire sur le terrain, donc soit responsable d'une zone d'intervention, soit des postes de chef de mission, de directeur pays. Et puis effectivement, c'est une fois que j'ai rejoint, donc j'avais travaillé au Liban, au Congo-Brazzaville, en Tunisie, à ce niveau-là. Et puis en 2011, j'ai rejoint une première agence internationale, juste après la fusion, justement. Et là, j'ai eu beaucoup de responsabilités sur différents pays qui ont permis d'étoffer ce portefeuille géographique.
À quel moment tu as su que ça allait devenir ta vie et que tu allais passer, en tout cas pendant une vraie période de vie, d'un site à l'autre, d'une mission à l'autre?
Alors, je pense que pour le coup, quand je fais ce choix professionnel, il est assez mûr dans ma tête. Donc, c'est vraiment une vraie conviction de vouloir faire ça. Quand j'arrive en Centrafrique, je pense que je découvre un terrain idéal pour ça. Thierry parlait de la claque qu'il a vu prendre en Bosnie. Quand on arrive dans le nord de la Centrafrique, on prend une sacrée claque aussi. Et j'ai fait un métier qui est absolument formidable, qui est celui de coordinateur terrain. Donc, d'être le responsable finalement des activités de l'association pour laquelle on travaille sur le terrain. Donc, c'est vraiment très transversal, ça mélange du management, de la représentation avec les autorités, les partenaires, les populations bénéficiaires de l'aide qu'on peut apporter, les équipes qui sont sur le terrain, qui peuvent être diverses et variées, le côté vraiment organisation, RH, administratif, ça touche à tout. J'ai très longtemps dit que c'était le meilleur poste qu'on pouvait faire, parce que c'est celui qui est quand même le plus au contact de ce qu'on fait, donc c'est là où il y a le plus de sens, quelque part. On voit directement l'impact de nos programmes, de nos activités, et c'est là où on a même la meilleure rétribution symbolique, puisque c'est là où on voit les gens quand le forage creusé donne de l'eau pour la première fois dans un village. C'est une sensation absolument incroyable de voir la fête que ça représente évidemment pour les populations. Donc voilà, donc ça a été c'était vraiment ce poste-là qui m'a donné vraiment envie de continuer. Et puis comme je suis quelqu'un d'assez tenace et qui aime bien le temps long, en fait, autant j'aime bien faire des choses différentes, autant j'aime bien voir l'impact de mon travail sur le temps long. C'est peut-être pour ça que ça fait 13 ans que je travaille ici, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir d'où on part et où est-ce qu'on va, les trajectoires. Je crois que j'aime beaucoup ça, et c'est pour ça que je suis resté très longtemps en Centrafrique. Ça reste un pays difficile, donc au bout de 2 ans et demi, il était quand même temps de voir autre chose, mais en tout cas l'engagement était pris pour le reste de la carrière.
Peut-être Thierry, je te repasse la parole, est-ce que tu peux nous parler d'une intervention un peu type, si ça veut dire quelque chose? Je sais que vous êtes sur plus de 100 projets en même temps aujourd'hui. Typiquement, où est-ce que vous vous retrouvez? Comment vous intervenez?
La première, c'est peut-être un pays dans lequel nous ne sommes pas présents. Pour ce faire, on est au fait d'une situation qui nécessiterait un apport d'aide humanitaire. Donc dans un premier temps, on envoie une équipe réduite de gens plutôt expérimentés, ce qu'on appelle une mission exploratoire, qui va se rendre sur le terrain pour évaluer la situation et évaluer les besoins qu'il s'agirait de satisfaire. Si on considère que nous pouvons avoir une plus-value et que nos savoir-faire correspondent aux besoins, à ce moment-là, on va rédiger des projets, voilà, que l'on va adresser à différentes sources de financement, donc ce qu'on appelle les bailleurs, afin de rassembler les fonds qui nous permettront dans un second temps de mettre en place et d'implémenter un projet destiné à aider ces mêmes populations. Voilà. Donc ça, c'est une première façon d'agir. Et puis il y a une deuxième catégorie de pays sur lesquels nous pouvons intervenir, sont des pays où nous sommes présents depuis longtemps. Je peux parler par exemple de l'Irak, je peux parler du Liban, de la République démocratique du Congo, et je pourrais en citer davantage, qui sont des pays qui connaissent depuis de très nombreuses années, si ce n'est des décennies, des problèmes humanitaires, qui démarrent souvent par une problématique de haute intensité, souvent un conflit armé, qui finit par se résorber dans le temps, et c'est là où peuvent intervenir une seconde phase de nos domaines d'intervention, donc relevant pas nécessairement du développement, mais comment dire, de la post-urgence, voilà. voilà, ou sur la oui, sur des activités de d'autonomisation par le biais de leur relance professionnelle ou par la réhabilitation d'édifices, d'infrastructures. Et puis, ces pays-là, qui sont des pays que l'on juge toujours d'une grande instabilité, replongent malheureusement parfois ou reconnaissent de nouveau une crise ou un pic de crise. Et là, on repart dans l'humanitaire. Voilà. Et c'est comme ça que sur des pays, on se maintient depuis plusieurs décennies, en fait.
J'ai compris qu'une autre spécificité de Première Urgence Internationale, c'était de travailler beaucoup avec des équipes locales. Quelques expats envoyés, bien sûr, mais surtout beaucoup de locaux. À quoi ressemblent les équipes qui mènent ces missions au temps long ?
Alors effectivement, je pense que le premier chiffre, qui peut-être quelques chiffres pour éclairer cette réalité-là que vous décrivez d'avoir beaucoup d'équipes locales. Aujourd'hui, première urgence internationale, c'est 3500 collaborateurs à peu près. Et on est entre 100 et 150 au siège. On s'avoisine les 150 aujourd'hui et on a à peu près 250 personnels internationaux. Donc ça veut dire qu'on est plus de 3000 collaborateurs. Hein, c'est évidemment du personnel national. Les missions, comme l'évoquait Thierry, on y est présent depuis certaines des dizaines d'années, d'autres plus récemment. Mais il y a quand même une forme de constante qui peut être relevée, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de pays où on est là depuis très longtemps. Alors ça revêt des réalités qui sont évidemment différentes et qui dépendent de chacun de ces contextes et de leur histoire aussi programmatique. Quel type de réponse on a pu apporter ? Je pense à l'Afghanistan, où ça fait plus de 40 ans qu'on apporte de l'aide médicale. Mais cette aide médicale, comme elle a été expliquée, elle a été de différentes natures. Il y a eu des phases où on était vraiment dans la réponse d'urgence. Pour vous dire ce que ça peut être, ça peut être tout simplement des villages qui, du fait de conflits, sont inaccessibles ou le système de santé ne peut pas se développer. Bah, nous, on va développer notamment des unités mobiles qui vont se rendre sur place pour soigner les gens, tout simplement, apporter la santé dans ces zones qui en sont exclues. Et puis, il y a eu d'autres phases de l'Afghanistan. On sait les différentes séquences qui ont marqué ces 20 dernières années où on a travaillé à une toute autre échelle, notamment sur l'administration de système de santé à l'échelle provinciale dans quelques provinces et où là on était clairement dans de la structuration avec des programmes et d'un volume extrêmement conséquent et qui nous permettait de le faire.
Alors l'Afghanistan est un exemple extrêmement intéressant qui me lève un certain nombre de questions. Si tu veux bien, je vais y rester. Donc on a tous en mémoire l'histoire quand même très très douloureuse du pays avec l'invasion soviétique, le Taliban version 1, un gouvernement Taliban version 2 il y a 2 ans. Donc on comprend pourquoi ça fait bien longtemps que vous êtes là-bas. Comment aujourd'hui, quand tu es sous le régime des talibans, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire une population qui est quand même très largement affamée des droits des femmes, je voyais hier qu'on leur interdisait même l'accès au téléphone, l'accès aux médias sur les téléphones. Donc des droits des femmes qui sont aujourd'hui inexistants. Comment est-ce qu'on assure une sécurité à ces équipes, si vous êtes encore là-bas ? Et comment vous êtes en capacité à traiter aussi la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, à les approcher, à éventuellement, qu'est-ce que ça implique éventuellement sur des équipes, sur la constitution de vos équipes ? Est-ce que vous vous adaptez ? Et une dernière question, je suis désolée, je vous en balance 3 d'affilée, mais parce que c'est un lieu qui est peut-être particulièrement problématique. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec le pouvoir en place ? Les talibans ne sont pas reconnus comme un pouvoir légitime. Et en même temps, vous avez besoin de collaborer, même si ce mot est peut-être un peu entaché, mais et vous avez besoin de travailler ensemble. Comment on fait ça quand on a face à soi un gouvernement particulièrement problématique ?
Alors, ça fait beaucoup de questions, mais ouais, je vais essayer d'y répondre.
Je suis désolée, je m'en excuse.
Alors, déjà, en fait, nous, on travaille quasiment depuis toujours en zone talibane, puisque du coup, il y a eu des zones qui ont toujours été sous le contrôle des talibans. Et quand, effectivement, il y a un retour au pouvoir central il y a 2 ans, nous, ça fait des années qu'on est dans des zones qui étaient sous contrôle taliban et avec lesquelles on travaillait déjà. Donc, je pense que la première des choses sur le comment on fait, c'est tout simplement avoir développé cette expertise, c'est-à-dire arriver à mettre en œuvre nos programmes avec à la fois nos lignes et nos cadres techniques. C'est-à-dire on fait de la santé, des problèmes de santé avec tout un tas de savoir-faire qui sont les nôtres, et il n'est jamais question de faire de la santé low cost entre guillemets, donc c'est de pouvoir le faire de manière correcte, et deuxièmement de pouvoir le faire en respect de nos valeurs et des principes humanitaires qui sont évidemment le indiscutable, et puis surtout notre ligne directrice dans la manière de mener nos interventions. Par rapport à cette question, effectivement, de pouvoir travailler avec du personnel féminin, ou en tout cas la question de la condition des femmes en Afghanistan, c'est évidemment un paramètre extrêmement important, et sur lesquels, et c'est là aussi où effectivement l'association développe un cadre qui lui est propre à ce niveau-là, mais c'est de pouvoir dire, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord de soigner tout le monde. Et soigner tout le monde, ça veut dire évidemment soigner les femmes. Et donc on essaye plutôt de développer une approche pragmatique sur ce qu'on appelle justement cette logique d'accès, accéder à toutes les populations les plus vulnérables là où elles sont, plutôt que d'avoir une logique par les principes et qui s'avère inopérationnelle. Donc pour être très concret, et parler très concrètement, c'est-à-dire de nous d'aller discuter au niveau local, là où on travaille, avec les talibans, pour dire effectivement, vous voulez qu'on soigne toute votre population ? Oui. Pour soigner la population, vous savez qu'on a besoin de tout un tas de personnel féminin, puisque du coup, pour les mêmes raisons, il est inenvisageable que les femmes soient soignées par des hommes, et vice versa. Et donc du coup, il nous faut bien du personnel féminin. Pour avoir ce personnel féminin, il faut bien qu'il travaille. Et pour qu'elle travaille, et pour qu'elle puisse travailler, il faut qu'elle soit aussi formée, donc il faut aussi qu'elle aille à l'école. Mais il y a même des discussions un peu triviales sur le côté, oui, alors ok, on va rattacher les formations paramédicales, pas au ministère de l'éducation, mais au ministère de la santé, comme ça sera plus facile. Oui, mais vous doutez bien que pour pouvoir faire des formations paramédicales, il faut avant qu'elles aient été à l'école, sinon ça marche pas. Ah oui, ok. Donc en fait, par des discussions très pragmatiques, et il y a toujours une différence entre les, comme un peu partout je pense d'ailleurs, entre les décrets gouvernementaux et une réalité au local. On avait vu exactement dans un contexte très différent la question de pouvoir maintenir nos activités au Mali il y a quelques temps, et où effectivement on trouve toujours un pragmatisme des autorités locales qui nous permettent d'intervenir. Mais ça n'a pas forcément été sans rapport de force. Il y a eu un moment donné où, du coup, nous, on avait dit, ok, vous voulez plus que les femmes aillent travailler, ok, on prend note, mais nous, les hommes n'y vont plus non plus. On travaille tous en télétravail. C'était même du télétravail en Afghanistan. Ce qui nous a permis d'établir une forme de rapport de force avec les autorités en local, et on arrive à des solutions très pragmatiques. Alors, je vais pas vous mentir, c'est une question compliquée. Il y a des fois où effectivement ce rapport de force à des moments donnés il est plus ou moins à notre avantage, il prend du temps, il faut négocier, il faut reprendre de nombreuses fois la discussion, mais en tout cas on y arrive, et avec effectivement avant tout cet objectif qui est très clair, qui est celui d'un accès pour tous et dans des bonnes conditions à la santé.
Cet échange sur l'Afghanistan est extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a des interventions que l'on refuse ? Parce que, par exemple, vous seriez en désaccord avec la politique de la France. Est-ce qu'il y a des endroits où vous sentez que vous ne pouvez pas aller ?
Première Urgence est une association de loi d'Afghanistan, mais c'est aussi une ONG. ONG, il y a N. Donc on n'est pas soumis aux positions politiques de la France. Si je prends l'exemple du Mali, où récemment la France a décidé de se désengager et de couper toute son aide financière au développement et à l'humanitaire dans le pays. Pour autant, nous, on est restés parce que les besoins humanitaires perdurent. C'est pas parce que la France décide d'arrêter son soutien à une action de développement ou humanitaire dans un pays que nous, on va nécessairement arrêter. Au contraire, je pense que, d'autant plus, je veux dire, s'il y a moins d'aide, il est encore plus utile que nous y restions pour continuer à apporter l'aide dont les populations civiles ont besoin, parce que les Maliens avaient besoin d'aide humanitaire avant cette décision française, et ils en ont toujours besoin. Donc, et peut-être même encore plus d'ailleurs.
Comment vous décidez du coup quand il y a débat, parce que j'imagine que souvent il n'y a pas débat et il faut y aller, mais quand il y a débat, comment vous décidez d'envoyer des équipes ?
Il peut y avoir débat, mais pas sous l'angle politique, celui que tu viens d'exprimer. On peut avoir des débats sur des conditions, sur les conditions d'accès, en fait. Ça, c'est vraiment un truc qui revient vraiment chez nous assez souvent. Ce qu'on appelle aussi l'espace humanitaire. Il y a des pays ou des régions qui nous sont inaccessibles aujourd'hui. Il y a des besoins dans ces zones, mais elles nous sont inaccessibles parce que les groupes qui les contrôlent ne nous acceptent pas. Envoyer des équipes expatriées ou même des équipes locales dans ces régions qui sont contrôlées par ces groupes armés, ce serait très dangereux pour eux. Ce serait dangereux pour eux parce que nous ne sommes pas acceptés.
Donc la il y a limite, aujourd'hui. C'est la sécurité de tes équipes.
C'est la sécurité des équipes. Oui, ça, je pense que pour nous, c'est la ligne rouge. On n'engagera aucune activité de terrain si nos équipes sont en danger. Ça, on ne le fera pas. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est pas tant les positions politiques qui peuvent s'exprimer et qui considèrent que l'aide humanitaire dans tel ou tel pays serait inappropriée. Je pense par exemple à nos activités en Corée du Nord. Je pense également à nos activités en Syrie côté gouvernemental. Il y a des besoins dans ces pays-là, même si ce sont des pays qui sont mis au banc de la communauté internationale. Nous, c'est pas notre objectif. On n'est pas là pour soutenir un régime. On est là pour aider des populations dans le besoin et dont les autorités ne sont pas en capacité d'assurer ce qu'elles devraient être en capacité d'assurer. On se substitue au système de santé parce qu'il y a des faillances du système de santé. On est quelque part, nous, des pompiers. On agit parce qu'il y a le feu. Et on n'a pas vocation à s'installer de façon durable dans le pays, sauf, comme je le disais tout à l'heure, lorsque les crises se succèdent les unes après les autres dans des pays comme on les a cités tout à l'heure.
Est-ce que parfois vous choisissez de ne pas intervenir pour ne pas devenir une caution d'un gouvernement en place ?
Je ne pense que de toute façon le régime taliban se serait maintenu quand bien même nous ne serions pas intervenus. Je pense que le sujet n'est pas là, mais quant à la récupération, oui, évidemment, certains régimes récupèrent à leur profit les activités mises en place par des ONG, se prévalant du fait que ce serait eux, grâce à eux, que la situation se serait améliorée, alors que dans les faits, ça n'est pas le cas, mais les populations locales qui bénéficient de l'aide des ONG, eux ne sont pas dupes. Ils savent très bien d'où vient l'assistance. Après, c'est la communication politique du gouvernement en place. Faut pas être dupe.
J'ai, je pense, un exemple très concret qui illustre exactement cette idée-là. Quand survient la crise syrienne dans le courant des années 2010 et que la guerre civile en Syrie, hein, très clairement, on a eu cette discussion et de gros débats à l'époque entre les ONG qui intervenaient en cross-border depuis des pays voisins, le Liban, l'Irak, la Turquie, la Jordanie, et ceux qui continuaient d'intervenir en zone régime Syrie gouvernementale. Et c'était des débats qui étaient assez houleux. Il se trouve que nous, Première Urgence Internationale, on était déjà présents depuis 2008 dans des programmes notamment au profit de réfugiés irakiens en Syrie. On avait obtenu les autorisations pour travailler. Et là, quelque part, sur la question de la neutralité, il y a une ligne rouge qui est très claire et qui est posée par les autorités gouvernementales, c'est qui intervient en cross-border ne peut plus intervenir à l'intérieur de la Syrie gouvernementale. Donc là, c'est un paramètre. Et elle pose cette question par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la neutralité. L'analyse de ce qui a été la nôtre est de dire on fait partie des très très rares acteurs qui peuvent aujourd'hui intervenir en Syrie. On a une guerre civile qui est majeure, avec des victimes, comme dans tout conflit, des deux côtés. Il y a déjà des acteurs qui, eux, n'étaient pas présents, qui interviennent en cross-border. Par ailleurs, nous, on intervenait aussi au profit des populations réfugiées au Liban, en Jordanie et en Irak. On a fait ce choix opérationnel et stratégique de dire, si on regarde, pas que nous, mais l'ensemble de la réponse, on est plus utile côté gouvernemental que côté non-gouvernemental. Et les deux ne sont pas possibles. Personne ne faisait les deux. Par contre, si on reste côté gouvernemental, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne fait pas le jeu du régime ? Toutes les questions qu'on posait. On s'est doté d'un cadre d'intervention assez rigoureux, assez strict, qui nous a amené à faire certaines choses et à refuser de faire d'autres interventions. Notamment celles qu'on ne pouvait pas faire en direct. C'est-à-dire que du coup, par exemple, des opérations de distribution alimentaire, il fallait absolument passer par des opérateurs partenaires du régime pour le faire. Là où sur d'autres expertises savoir-faire, de la reconstruction de réseaux d'eau, de la reconstruction d'écoles, des enjeux sur tout ce qui était aussi relance économique dans des zones qui étaient extrêmement affectées. Hein. On dit souvent l'humanitaire, c'est faire du life-saving. Moi, je dis en Syrie, c'est du bring life again. Il n'y a plus de vie, elle s'est retirée, nous, on la ramène. Et pour autant, on a refusé de faire des distributions alimentaires, ce qui n'était pas facile non plus, parce que là, on s'est dit, là, on ne tient pas notre cadre. On n'aura pas la maîtrise. Distribuer de la nourriture, ils vont pas nous laisser venir voir à qui on distribue, et on pourra pas dire que c'est nous, et ce sera effectivement le régime qui dira c'est la nourriture qui vient de nous. On l'a pas fait.
Tu mentionnais, Thierry, la notion d'espace humanitaire, Et quand on se parlait avant l'émission, tu me disais que votre espace humanitaire se réduisait, ce qui peut paraître un peu paradoxal vu de l'extérieur, parce qu'on a l'impression que le monde n'a jamais été autant en conflit. Alors, on a un effet de loupe aussi, évidemment, parce que la communication n'avait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. On sait tout ce qui se passe au bout de la Terre. Mais quand même, il y a un sentiment d'accélération des conflits, de leur intensité. Qu'est-ce que tu veux nous dire quand tu nous dis que dans ce monde qui a de plus en plus de besoins, votre espace se réduit ?
C'est le développement des groupes armés djihadistes qui nous empêche d'intervenir dans des zones où les besoins humanitaires existent et sont même peut-être plus importants que dans les zones qui ne sont pas contrôlées par ces groupes. Et c'est en cela que notre espace se réduit. C'est une situation qu'on ne connaissait pas avant la chute de Bagdad, parce que l'origine de ces groupes-là est notamment la création de Daesh fait suite à la chute de Bagdad, tous les printemps arabes qui ont vu également naître d'autres groupes islamistes et leur implantation s'est étendue sur des zones qui avaient besoin d'aide humanitaire de longue date. Et qui nous sont aujourd'hui interdites pour des questions de sécurité dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est en cela que je trouve que l'espace humanitaire se réduit.
Si je vous demande de faire un peu de prospective, quelle est votre vision des 10 prochaines années et du développement à la fois de l'état du monde et de l'aide humanitaire ?
Très pessimiste, de mon côté, de mon point de vue, très pessimiste. Au moment où a lieu l'enregistrement de ce podcast, on a quand même une grande multiplication de conflits de haute intensité. L'Ukraine, Gaza, mais on parle moins du Soudan, pourtant c'est une crise humanitaire majeure. La République démocratique du Congo, et je pourrais en citer d'autres, où depuis les deux dernières années, les besoins humanitaires ont explosé. Et ce que l'on peut craindre aujourd'hui, c'est que ces conflits s'étendent dans la périphérie de chacune de ces zones géographiques et la menace est forte, très forte. Et pour ma part, je ne vois pas le soleil pointer dans ces zones aujourd'hui très nécessiteuses. Je m'imagine, moi, que le conflit en Ukraine peut durer une dizaine d'années. La RDC, ça fait 20 ans qu'il y a des conflits. Pour quelle raison demain ça se calmerait ? Je n'en vois pas.
Et effectivement, arriver à les maintenir localement reste un enjeu, peut-être l'enjeu le plus important.
Sur les interventions humanitaires qui sont associées à ces conflits, puisque derrière ça, il y a cette réalité humanitaire et celle que nous on voit. Il n'y a pas si longtemps que ça, je m'interrogeais, parce qu'on a quand même l'impression, et je pense que Thierry pareil, qu'on a dit toujours, oui, c'est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de crises. Est-ce qu'on n'est pas en train de se raconter une histoire, hein? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et il y a encore une petite dizaine d'années, il y avait des générations d'humanitaires. On pouvait parler de la génération Haïti, la génération Tsunami, la génération crise syrienne éventuellement. Je serais bien incapable de vous dire quelle génération on est aujourd'hui. On passe d'une crise intense à une crise intense. Elles sont concomitantes et surtout elles sont d'une autre nature. On a tous appris, enfin en tout cas moi je suis partie de la génération qui a appris effectivement à interagir dans des théâtres de crise en Afrique où il y a des groupes armés, il faut négocier des checkpoints, il y a l'accès. Là aujourd'hui il y a des drones partout. Comment on interagit, on négocie qu'un drone ? Autant un enfant soldat, je sais faire, autant un drone, je ne sais pas faire. Et ça, c'est aussi des théâtres de crise qui sont nouveaux et qui doivent nous amener à nous réinventer. On a fait beaucoup pour la sécurité de nos équipes. Et je pense qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, ça reste un métier à risque, mais c'est un métier à risque qui a été rationalisé. Là, le caractère un peu sans contrôle finalement de ces nouveaux conflits va nous amener à devoir nous réinterroger sur effectivement comment continuer d'assurer cette sécurité, mais d'intervenir en même temps dans ces zones-là.
Comment on fait le soir pour revenir à la maison et reprendre une vie normale ? Comment on fait pour s'équilibrer ? Et pour continuer, pour durer dans ce métier ?
Moi, je ferai le parallèle avec un médecin. Le médecin, pour être efficace, il ne doit pas tomber dans les travers de l'émotion. Donc nous, on agit en tant que professionnels, je crois. Maintenant, aujourd'hui, on peut parler que l'humanitaire s'est professionnalisé. Donc nous sommes des professionnels de l'humanitaire. Et la sensibilité, quelque part, ce serait nuire à la qualité de notre intervention. Si on se met à pleurer à chaque fois qu'on voit une situation délicate, ben, malheureusement, on ne sera pas efficace. Et je crois que pour être efficace, il faut savoir prendre de la distance pour être en capacité d'agir au mieux. Et après, bon, le soir, bon, aussi parce que moi, donc, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis dans l'humanitaire. Je sais faire la part des choses et même si je pense toujours à l'activité de l'association, je rentrer chez moi, je n'en parle jamais. Et même très rarement, lorsque je dîne avec des amis, enfin c'est pas un sujet que j'aime aborder. J'essaie vraiment de couper. Oui, je cloisonne, bien sûr, mais il le faut parce que sinon, mouliner 24 heures sur 24, ça n'est pas très bon.
Alors, je sais pas si j'ai la... Non, en vrai, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Thierry. Souvent, en management, moi, j'utilise... Alors, ça vaut ce que ça vaut et ça ne vaut que ce que moi, j'en dis. Mais j'utilise... Il y a un livre d'un auteur qui s'appelle Ernst Kantorowicz qui s'appelle Les deux corps du roi. Et je dis souvent, il y a le corps du manager humanitaire et puis il y a le corps de l'individu. Et effectivement, la nécessité de garder cette nette différenciation... C'est pas tous les jours facile, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. On a des pics d'émotions liés à ce qu'on y voit quand on revient de vie de terrain. J'étais il y a pas longtemps en Cisjordanie, je suis revenu avec une réelle indignation. Et c'est aussi pour ça qu'on a des rôles un peu différents. Il y a nos équipes sur le terrain, puis il y a nous au siège. Et un des rôles du siège, c'est aussi d'avoir un peu ce recul-là pour garder un peu de lucidité par rapport à ce qui se fait sur le terrain parfois. Et puis eux, ils sont là pour venir aussi nous amener au terrain, à cette réalité opérationnelle. Et puis il y a des ponts, les visites s'en est. Quand on revient tous de visite, en général, un petit peu remonter sur notre besoin d'en faire plus, d'être engagé et autres. Et puis quand on est ici, on regarde qu'il y a 24 missions. J'ai parlé beaucoup de Gaza pendant 4 mois, mais je sais que je dois aussi garder le regard sur ce qui se passe dans d'autres pays. Et c'est vraiment tout ce travail un petit peu permanent d'équilibre entre une nécessaire indignation pour trouver le moteur et l'énergie, quelques boules de neige avec ses enfants le soir ou en vacances pour garder de l'équilibre dans la vie, et en même temps ce recul et cette lucidité de positionnement pour savoir qu'on a tous un rôle qui est différent et que celui du terrain, il est professionnel dans la mise en œuvre et il doit être accompagné par un support distancié et relativisé sur les choses, tout en ayant un objectif commun, celui de continuer de développer l'accès aux services essentiels pour les populations.
J'aime bien demander à mes invités s'ils ont un livre, livres à recommander qui ont été importants dans leur chemin à un moment ou l'autre.
Bah, c'est un bouquin qui, moi, m'a marqué et qui n'est pas directement humanitaire, mais qui est plus de contexte. Ça reste les Cavaliers de Joseph Kessel, que j'ai lu lors de ma première mission. Donc ça renvoie, alors c'était pas pour la vocation, mais c'était plutôt pour l'avoir lu et m'avoir ouvert c'est un imaginaire très particulier sur l'Afghanistan et que je garde et que j'ai retrouvé quand j'étais en Afghanistan sur pas mal d'aspects.
Une dernière question. À qui tu aimerais passer le micro ?
Moi, je veux dire à la prochaine génération, moi j'ai 60 ans, donc mon temps professionnel ne sera pas infini et le relais sera pris, j'en suis sûr, par les équipes aujourd'hui qui nous rejoignent, les quadras, les trentenaires, ceux qui sortent de master coopération développement humanitaire qui nous rejoignent au fil du temps, la relève est là.
Merci pour cet échange si riche, Thierry et Olivier. Échange qui nous a permis de lever le rideau sur le métier de l'humanitaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais sans le connaître vraiment. Merci nous a fait connaître les spécificités de l'histoire de la création de Première Urgence Internationale. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, notamment des questions éthiques que le métier peut soulever aujourd'hui. Alors je finirai notre échange en rappelant ton message, Olivier, sur la nécessaire indignation. Gardons tous intact notre nécessaire indignation. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.
Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcasts. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.